Quand j'ai fait ma transition de freelance à agence, j'étais un petit peu paumé dans cette grande question de la structuration de ce qu'on appelle une agence, de comment passer de 0 à 1 de façon propre, de façon pérenne et de façon minimum méthodique. Et donc, je me suis dit que le mieux pour éviter à un nombre trop conséquent de personnes de souffrir des mêmes maux, bah c'était tout simplement de prendre le temps de faire une vidéo qui répond exactement à cette problématique de comment concrètement on fait passer rapidement et intelligemment une boîte de service, une agence de 0 à 10K de chiffre d'affaires mensuel, parce que c'est là que tout commence en fait. Et j'ai trouvé la personne la plus capée sur le sujet, je pense, de tout l'écosystème français pour explorer cette grande thématique en la personne de Pierre. Comment tu vas ?
Salut. Salut Benoît, merci pour l'invitation, ça va super bien.
Et comment tu te présentes ?
Alors moi je m'appelle Pierre, du coup j'ai 28 ans, je suis le cofondateur de The Quest, qui est un centre de formation et qui est une école entrepreneuriale par justement la pratique. Ce qu'on fait à The Quest, c'est que chaque année on prend 10 jeunes entre 17 et 27 ans et en fonction de leur profil, on va les accompagner pour créer une boîte. Donc, créer une boîte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire soit créer un produit, donc une start-up, et dans ces cas-là, on va leur donner une bourse de 100 000 euros et un accompagnement pendant 12 mois. Soit on va faire une agence de service pour les personnes qui sont plus à l'aise avec avec cette typologie de business-là. Moi, je viens du monde du service. Et on va les accompagner, du coup, pareil, ad vitam aeternam dans l'opérationnel. On a créé donc The Quest en 2020. Et donc, depuis 4 ans, on a créé 12 startups et 5 agences qui fonctionnent bien. On a atteint le fameux palier des 22 millions d'euros d'ARR. Cette année, et donc on en est très content. Et sinon, sur mon parcours, moi je suis ingénieur de formation et j'ai tout fait bien comme il faut pour faire plaisir à papa, maman, jusqu'à arriver dans un cabinet de conseil en consulting. Et ensuite, j'ai décidé de me lancer il y a 4 ans, d'abord avec une agence qui s'appelle My Name is Bond, qui fait de l'automatisation sur les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai rejoint Maxime Blondel, qui est aujourd'hui mon cofondateur sur The Quest.
Là, on va avoir de la matière.
Ouais, franchement, j'ai vraiment fait un condensé de 4 années sur le terrain de formation en ligne, de discussion sur vraiment on a mis en place une méthode en 5 étapes pour vraiment réussir à justement créer son agence et ne pas en être esclave et être heureux de ce qu'on a créé.
On va parler de comment poser les bonnes bases, donc les fondations. On va parler offre, on va parler ensuite comment vendre,
ouais,
la partie sales. On va parler de la prod, ensuite comment tu délivres ce que tu as vendu et derrière comment tu scales, donc toute la partie développement en fait.
Ouais.
Moi, je te propose qu'on file ça un petit peu sous cette expérience de pensée d'une création d'agence. On part de zéro.
Ouais.
Comment est-ce que tu procéderais si là, demain, tu devais monter une agence from scratch. T'as absolument aucune autre information que celle de devoir monter une agence rapidement.
Ouais.
Comment tu procèdes ?
Pas mal d'étapes. Justement, la première chose, en fait, c'est de comprendre le jeu auquel on joue. Dans cette première étape, c'est de se dire « Ok, si je veux monter une agence, si je veux délivrer un service à quelqu'un, j'ai plusieurs véhicules pour le faire. Soit je le fais de manière personnelle, ça s'appelle du freelancing, soit je le fais en équipe, ça s'appelle de l'agence. Là, on va décider qu'on va se dire « Ok, on veut monter une équipe ». Donc, dans un premier temps, on se dit que d'un point de vue mindset, on se met dans la peau de quelqu'un qui veut créer un business avec une équipe et donc pas forcément travailler tout le temps dans l'opérationnel. Donc, la première chose à se dire, c'est « Ok, prenons l'exemple, par exemple, en fil rouge de « je vais créer une agence qui crée des sites internet en utilisant une technologie comme par exemple Webflow ou Framer. Okay, » donc, on va dire une agence de création de sites internet, c'est une agence très classique. La première chose qu'on va regarder, c'est quel est le type d'offre qu'on va offrir à nos clients. Il y en a 3. Soit tu fais du « do it yourself », soit tu fais du « done with you », soit tu fais du « done for you ».« Do it yourself », en gros, c'est « je te crée des templates de sites internet » je te les donne sur une plateforme, toi tu me payes, je sais pas, 9 euros ou 29 euros pour avoir accès à mes templates, et après de ton côté tu peux les dupliquer et faire ton site internet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois être très connu, tu dois avoir un canal d'acquisition massif, que ce soit sur Twitter, sur Reddit, sur ce que tu veux, ou t'es super connu là-dedans et ton template il est vu par des millions de personnes chaque mois. Done with you, c'est salut Benoît, t'as besoin d'un site internet, c'est quoi ton besoin ? Et fais-moi un petit document, ce qu'on appelle un cahier des charges, pour me dire ok, c'est quoi tes nécessités. Moi, je regarde, je dis ok, ça, c'est possible, ok, tiens, c'est 5000 balles, ça te va pas, on fait les allers-retours, je te close et on y va, je fais le site internet. Ça, c'est done with you. Et après, tu as done for you. Et là, done for you, ça va être plus être en mode, tu viens me voir et tu me dis, ma marque, elle manque de visibilité. Moi, je regarde, je dis ok, mais en fait, ce qu'il te faut, c'est un site internet. Bouge pas, moi, je vais tout gérer de A à Z et je vais te faire ton site internet. Il y a beaucoup moins d'échanges et de ping-pong. Et que tu sois Benoît ou que tu sois Total ou que tu sois EDF, ce sera la même offre. Avec un delivery bien évidemment différent parce que le site ne sera pas le même. Mais moi, en interne, je serai plus en mode Fordisme des actions, tu vois, et je vais avoir des séquences très, très, très précises pour réaliser ça. Une fois que tu as ça, ton type d'offre dans laquelle tu vas bosser, tu l'as choisi par rapport, tu as le droit de tester, tu as le droit d'en faire plusieurs sur ton site, tu as le droit, voilà. Tu vas te définir justement, est-ce que tu vas être en agence classique ou en agence productisée. Ça, c'est une notion qu'on n'entendait pas beaucoup avant et qui est de plus en plus connue, c'est qu'est-ce que c'est qu'une offre productisée. Le délire, c'est de se dire, ok, comment je fais pour ne pas avoir une croissance linéaire entre mon CA et le nombre de personnes qui travaillent dans ma société. Pour faire ça, il faut se dire, ok, où est-ce que j'apporte de la valeur pour mes clients et où est-ce que je peux mettre une personne attitrée à une tâche. Si tu prends par exemple l'exemple du site internet, tu as deux façons de le voir. Globalement, pour faire un site internet, il faut faire des maquettes et il faut les intégrer, si on prend la grosse maille. Soit tu te dis, pour chaque client, je vais mettre une personne qui va gérer le client de A à Z, ce qui fait que plus t'as de clients, plus t'as d'employés. Soit tu te dis, je vais recruter des gens qui vont être focalisés sur les maquettes et je vais recruter des gens qui vont être focalisés sur les intégrations. Ce qui fait que toi, tu peux avoir trois clients en même temps et celui sur le design, il travaille sur trois maquettes et celui sur l'intégration, il travaille sur trois intégrations. Donc, avec un nombre de clients qui augmente, tu peux garder la même équipe. Et donc, après, aller ensuite optimiser tes marges parce que tu vas prendre des mecs meilleurs, parce que tu auras plus de marge, donc plus de budget, etc. etc. Donc ça, c'est les deux éléments. Donc déjà, on a compris au jeu auquel on jouait, on choisit une offre. Donc là, par exemple, on va se dire, on va prendre une offre Done With You, donc on t'accompagne. Et donc, on se met en agence traditionnelle. C'est-à-dire, agence traditionnelle, c'est de se dire, OK, à chaque fois, je vais m'adapter aux besoins du client qui est en face. Mais du coup, ça veut dire qu'on va se dire, OK, bah, il va falloir que j'alterne entre des sessions où je vais recruter des gens, des sessions où je vais délivrer des clients et des sessions où je vais aller chercher du business. Et tu vois, c'est un peu une roue du hamster où, en fait, on va avoir des pics de dopamine où on se dit, tiens, trop bien, j'ai plein de clients à délivrer là en ce moment. Tu délivres, tu travailles de ouf. Une fois que tu as reçu ton CA et que tu as eu tes marges, après tu dis, OK, pour le semestre prochain, il va falloir que je close, tu vois. Et donc, il faut absolument sortir de cette dynamique-là, même en agence traditionnelle.
Hello, c'est Benoît. Là, ce que tu es en train de voir, c'est le média de Scalesia. On y produit, bah, tu peux le voir, hein, énormément de contenu 100% gratuitement toutes les semaines. Mais il y a un endroit où on apporte encore plus de valeur, c'est auprès de nos clients. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on a accompagné plus de 300 boîtes dans l'optimisation, l'accélération ou le déplafonnement de leur croissance. Comment ? En les accompagnant, on fait pas pour elles, on fait avec elles dans la création de leur système d'acquisition et de conversion client. Avec un objectif, hein, c'est de leur permettre de signer du chiffre d'affaires en continu pour accélérer leur croissance, être autonome. D'ailleurs, les retours clients sont assez unanimes, hein. Tu peux voir plusieurs petits témoignages passer et encore c'est loin d'être exhaustif. Si tu veux qu'on discute ensemble de comment on pourrait t'accompagner ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur notre accompagnement, je te laisse visiter skilesia.co, notre site ou le lien dans la description. Tu pourras y prendre un rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de t'aiguiller. On reprend la vidéo. Ciao.
Ensuite, il y a la définition d'une vision. C'est-à-dire, ok, c'est cool, on va faire une agence, on veut être libre géographiquement et financièrement, mais c'est quoi le but ? Le but d'une agence, il est simple. Optimiser l'EBITDA. L'EBITDA, c'est quoi ? C'est ce que tu fais rentrer dans ton agence, moins les charges que tu payes. Derrière, si tu veux revendre ton agence, le racheteur, il va venir, il va dire, ok, monte-moi ton bilan, c'est quoi ton EBITDA ? Ok, ton agence, elle est stylée, je te mets un x6, x3, x10, et je te rachète. Il y a des conditions, il y a des trucs, mais on en parlera à la fin. Pour faire ça, du coup, tu as deux manières de le voir. Soit tu augmentes ton CA, soit tu diminues tes charges. Comment tu fais pour augmenter ton CA ? Tu as deux façons de le voir aussi. Tu as parlé à beaucoup plus de personnes, donc closer beaucoup plus de clients, ou bien avoir beaucoup moins de clients, mais qui payent beaucoup plus cher. Ça demande deux types d'actions différentes. Dans un cas, tu te mets en mode ce qu'on appelle high ticket, où tu dis, ok, moi en fait, je travaille avec personne qui n'a pas un budget de 100 000 euros pour mon site internet. Tu es là-haut. Soit tu te dis, ok, moi justement, je fais des offres très peu chères, genre tous mes sites internet, c'est 1500 euros. Par contre, je parle à une plus grosse audience. Qui dit parler à une plus grosse audience dit craquer un canal d'acquisition. Ça, on le verra dans la partie sales, justement, de qu'est-ce que c'est un canal d'acquisition et comment on fait pour le craquer. Pour réduire le churn de son agence, c'est-à-dire réduire le nombre de personnes qui arrêtent de travailler avec ton agence, tu as plusieurs techniques. Globalement, tu en as une, c'est d'être sélectif sur les personnes que tu vas choisir. Donc, te dire, moi, ma cible, c'est eux, et je travaille pas avec les gens qui ont levé des fonds. parce qu'ils savent pas exactement où ils vont être exigeants, ils vont peut-être être même radins. Bref, tu sélectionnes tes clients. Ensuite, dès que le client a payé, il y a ce qu'on appelle les règles des 48 heures. Les règles des 48 heures, c'est de se dire, à partir du moment où on a payé quelque chose, une prestation, il faut tout de suite être dans l'opérationnel. Il faut tout de suite rassurer le client, tu vois. Parce qu'il y a un mécanisme qui se passe dans le cerveau, c'est « Ok, je me suis peut-être fait arnaquer. » Quelle que soit la réputation, quelle que soit, tu vois, genre... Donc, tout de suite, tac, communication. Et là, tu fais un rendez-vous avec le client, tu lui dis « Ok, c'est quoi les objectifs de la mission ? Est-ce qu'on est d'accord qu'on va là, avec telles étapes et en tant de temps ?» Une fois que tu as ça, tu continues à surcommuniquer. Parce que toi, dans ton agence, ce qui va se passer, c'est que tu vas tout le temps travailler sur le projet. Donc, tu vas te dire « Ok, mais en fait, le client, il sait que je suis en train de travailler pour lui. » Mais lui, de son côté, il a peut-être passé une mauvaise journée. Il s'est peut-être embrouillé avec sa femme. Il a peut-être eu un de ses collaborateurs qui a posé sa dème. Et du coup, il va voir arriver ta facture. Il va te dire « Attends, ils sont gentils, les cocos. Ça fait 3 mois qu'ils ne m'ont pas parlé. » Alors que toi, tu es en train de faire un site incroyable de ton côté. On en est où ? Donc, pour ça, il y a plusieurs mécanismes qu'on va mettre en place, mais on verra après. Et ensuite, une dernière chose, c'est de tout le temps prendre, avec la communication avec son client, de tout le temps prendre le pouls et d'essayer de faire grossir son agence en même temps que son client grossit. Donc, dans ces cas-là, toi, tu dois vachement le faire avec tes clients. C'est, tu vois, un petit peu t'adapter aux besoins de tes clients en mode « Ah bah tiens, en ce moment, ils ont grave besoin de cette thématique. Est-ce que je pourrais pas l'insérer dans mon produit ? Si oui, sous quel format ? Et comment je pourrais le proposer dans l'accompagnement ?»
Je fais une petite parenthèse là. J'ouvre une parenthèse. On parle souvent de tout le temps, enfin, parce que très bon framework, du framework AR, acquisition, activation, rétention, revenu, referral. On n'est pas là pour reposer des bases élémentaires comme ça, mais moi, j'ai de plus en plus un petit problème avec le AR.
Ouais.
C'est qu'en fait, il incombe à des métriques qui sont très self-oriented,
ouais.
Qui concernent le business. Et moi, je préfère parler plutôt de time to value. Mmh. Parce que le time to value, il inclut cette idée de temporalité.
Mmh.
Et il inclut aussi cette idée de customer-centric, en fait. C'est-à-dire que là, tu t'intéresses non pas à tes métriques à toi, mais tu t'intéresses aux métriques du client et à la valeur que tu vas lui délivrer.
Ouais.
Et en fait, j'ai identifié 6 time to value. Et en fait, c'est si tu te concentres sur réduire au maximum ces 6 time to value-là, tu as absolument tout gagné. Le premier, tu en as 2 catégories, c'est avant-vente et après-vente.
Ouais.
Le premier time to value avant-vente, c'est time to understanding value.
Ouais.
C'est à quelle vitesse le prospect il va comprendre en théorie comment ta proposition de valeur, ce que tu lui proposes, et à quelle vitesse il va comprendre dans la pratique comment la valeur va lui être utile et comment ça va lui être délivré dans son contexte à lui. Ensuite, la deuxième, c'est time to acquiring value. C'est à quelle vitesse le prospect il décide de s'accaparer la valeur en achetant le produit. Donc, à quelle vitesse tu le fais passer à l'action. Donc là, ça va incomber à tes sales et tout, tu vois. Et après vente, c'est, comme tu disais, tu vas avoir toujours un moment de flou où le prospect va être un peu en mode sidération. Tant, qu'est-ce que j'ai fait ? Même si il a mis 6 mois à prendre sa décision. Et donc là, en fait, tu as le time to primary value. Donc, c'est à quelle vitesse le produit, tu vas lui faire en sorte de lui délivrer un premier échantillon concret de valeur promise. Ça peut être soit en lui faisant réaliser une première action concrète, soit effectivement en ayant le plus vite possible un premier point pour lui donner un premier livrable, mais en gros, faire en sorte qu'il expérimente déjà le truc et lui donner un premier élément de réassurance, quoi, pour le recloser. Ensuite, le quatrième, c'est time to exhaustive value. C'est à quelle vitesse tu vas lui délivrer l'intégralité de la valeur pour laquelle il a signé. Donc, à quelle vitesse son site, il va être en ligne et il va l'obtenir.
Ouais.
Ensuite, c'est time to reordering value. C'est à quelle vitesse tu vas faire en sorte qu'il recommande la valeur en question. Donc, qu'il recommande un nouveau site internet potentiellement pour un autre projet ou quoi. Et après, time to promoting value. Bah, à quelle vitesse tu le transformes en promoteur, en advocate. Et en fait, si tu te concentres sur ces time to value-là, bah, tu te rends compte que tu vas compresser le plus possible tes rentrées de flux. Donc tes flux monétaires, tes flux de recommandations, etc. Et que là, ta boîte, elle explose, quoi.
Et comment tu fais la... Je vois très bien, pour le coup, je connaissais pas ce principe. Peut-être que tu l'avais envoyé dans une...
C'est une réflexion que j'ai eue dans le train, là, il y a 2 jours.
Ok. Et comment tu... Parce que réduire le temps, c'est une chose. Tu vois, par exemple, je te prends la partie promoting, ok, ouais. Ton objectif, c'est de réduire le temps que le client avec qui tu as bossé met une review sur Trustpilot sur ta boîte. Ok. Imaginons que tu arrives à réduire ce temps de manière incroyable, mais que le commentaire qu'il met, du coup, il l'a fait à la va-vite et il n'est pas dithyrambique. Et imagine, t'en as 10 qui en font des pas très dithyrambiques versus 5 qui font des pavés ultra détaillés sur ta truc, tu vois. Où est-ce que tu mets du coup le facteur qualité dans OK, ils vont rapidement sur Trustpilot, mais je veux aussi maximiser ce qu'ils vont mettre dessus.
En fait, dans cette idée de time, t'as l'idée de durée, mais t'as l'idée de timing aussi.
OK.
Donc c'est toi qui vas définir à quel moment c'est le plus judicieux. Donc quel moment dans l'expérience client, jalonné par ces time to value, ça va être judicieux de placer ton time to promoting value. C'est-à-dire, bon, bah, OK, ça va être intéressant. Tu as un certain pour des produits digitaux, par exemple, pour du it yourself, ça va être super intéressant de placer le time to promoting value juste après le time to primary value. T'as reçu un premier élément, genre t'as publié ton premier post LinkedIn parce que t'as acheté un produit digital pour publier sur LinkedIn. Bah, une fois que t'es dans ta dopamine, t'as publié ton premier post LinkedIn, t'as reçu tes 15 premiers likes, bim, là, on va te demander une review. Par contre, effectivement, quand tu livres quand t'as un gros livrable, quand tu fais du done for you, là, ça va être plutôt être judicieux de le placer après le exhaustive value. Parce que là, effectivement, tu vas avoir d'ensemble sur ce qui s'est passé, donc l'avis va être pertinent. Donc, tu vois, il y a cette idée de timing aussi, et tu peux jalonner le truc en fonction du parcours utilisateur.
Ok, hyper intéressant. Donc ça, c'est pour comprendre les jeux auxquels on joue. Et ensuite, il y a une dernière étape qui est de définir ses objectifs à soi pour atteindre sa vision. Donc là, tu as plein de choses, on le verra dans une autre partie, mais tu as plein d'éléments où tu te dis, ok, comment je fais pour me définir des objectifs, des KPI, etc., etc. Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, après 4 ans d'itération, c'est les plans à 90 jours. C'est-à-dire que okay, tu te dis, j'ai 90 jours, donc en gros 3 mois, qu'est-ce que je veux accomplir ? Et dans la question qu'est-ce que je veux accomplir, il y a un vrai travail de réflexion à avoir, tu vois. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que passer un certain stade dans son agence, au début, il faut grinder, il faut faire des actions, let's go. Mais passer un certain stade, en fait, il faut autant passer du temps dans l'opérationnel que dans la stratégie. Vraiment 50-50. Et en fait, réfléchir à ce que tu dois craquer pour ton agence, c'est aussi important que de faire d'écrire la newsletter ou d'écrire le prochain post LinkedIn. Et donc pour ça, il faut, pour que ton agence aille bien, il faut que le CEO aille bien. Et pour que le CEO aille bien, il faut le chouchouter. Et en gros, pour le chouchouter, il y a 3 grands pans qu'il faut surveiller. La formation, le sommeil, l'alimentation. Et après, on va dire les outils qu'ils utilisent. Globalement, se former pour un CEO, c'est pas très compliqué. C'est savoir vendre, savoir leader et être résilient. C'est les 3 pans sur lesquels tu as besoin d'être. T'as pas besoin d'être le meilleur expert de France sur la création de sites internet. Par contre, tu dois savoir et comprendre tout le panel. C'est-à-dire que tu dois connaître tous les CMS, tu dois comprendre qu'est-ce que ça implique de faire une migration de site internet, tu dois comprendre en fait tous les éléments qui vont te permettre de closer les gens. Donc ça revient au point de comment est-ce que tu choisis le secteur dans lequel tu vas t'impliquer. Je prends l'exemple de l'IA souvent parce que c'est pas parce qu'il y a ChatGPT qui sort que si t'as jamais touché à l'IA de ta vie, tu vas pas devenir expert en 3 jours. Donc tu vas pas lancer une agence d'IA parce que c'est le FOMO dans ce moment et que t'as le syndrome de l'objet brillant. C'est genre, ok, t'es photographe depuis ton plus jeune âge, tu te dis que toutes les agences immobilières, elles ont des photos rincées des appartements, lance une agence qui va permettre de prendre en photo de manière trop stylée tous les appartements, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais il faut qu'il y ait un sens parce que sinon tu vas lâcher le truc.
Le founder market fit.
Exactement. Et moi, j'appelle même ça en agence le customer founder fit. Tu vois, genre que vraiment à quel. En fait, au-delà de ton idée et toi, c'est plus genre. En fait, tu vas passer du temps avec tes clients, donc autant passer du temps avec des gens avec qui t'aimes bien serrer des paluches, tu vois.
Tu connais vraiment.
Ouais.
Dont tu connais les problèmes.
Exactement. Okay. Où est-ce qu'ils traînent, où est-ce qu'ils. Tu vois, moi, j'ai un de mes potes, il déniche tous ses contrats dans les salons business Air France. Et même si, d'un point de vue lifestyle, il a pas le niveau de vie de se payer tout le temps des billets en business. Il sait que ses clients sont là-bas. Et ça le fait kiffer d'arriver dans les salons et de serrer des paluches et d'aller rencontrer des gens. Donc, du coup, il le fait, mais c'est vraiment purement d'un point de vue business. Si t'es plutôt en mode, vas-y, bah, je kiffe aller dans des bars, me pinter, ou je sais pas, jouer au golf, ou tout ce que tu veux, bah, choisis une cible qui va être dans ce délire-là. Après, en plus, il y a quelque chose qui est compliqué pour ceux qui nous écoutent, regardent et qui sont freelance, c'est qu'il y a un vrai switch de mindset, tu vois, entre le moment où t'es freelance, où tu l'as vécu aussi, et le moment où t'es une agence, c'est que y a un petit truc où putain, tu gérais toute la chaîne de valeur et là, faut un peu comme des urgentistes, tu vois, dans un hôpital. Ton rôle, c'est d'amener le patient, mais après, tu vois plus le suivi, tu vois pas s'il s'en sort, tu vois pas s'il finit amputé, machin. Et tu vois, il y a ce côté-là un peu de dire, ok, c'est quoi la suite, tu vois, où est-ce que je mets, jusqu'où je mets l'attention, jusqu'à quel moment du funnel, etc. Mais il faut savoir, tu vois, le lâcher prise, c'est un peu le délire de se dire, ok, bah, en créant une agence, je crée un projet qui est plus grand que moi. Parce que du coup, je veux m'enlever mes barrières du fait qu'il y ait 24 heures dans une journée et qu'il y a un moment donné, bah, tu ne pourras pas facturer non plus 25 000 euros de l'heure. Et donc, il faut accepter le truc de se dire, mon kiff, c'est de travailler avec des gens que j'aime et accompagner beaucoup plus de clients dans un minimum de temps. Donc, je me mets en agence et je ne me focalise plus sur le temps que j'y passe, parce que c'est ça les freelances, mais je me focalise sur la valeur que je délivre, à savoir un site internet qui convertit pour mes clients.
On va en parler, mais comment tu fais ? Parce que moi, j'ai tendance à voir que, enfin, plus le temps passe, et ça m'intéresse grave d'avoir ton avis, parce que tu as vu, tu as bossé sur énormément de boîtes aussi, mais plus le temps passe, plus j'ai tendance à considérer que 100% des entreprises sont des algorithmes et que le rôle d'entrepreneur, c'est de développer cet algorithme-là. Algorithme qui va lui permettre de réaliser à l'échelle une action qu'il était en mesure de délivrer lui-même quand ils étaient 5. Mais typiquement, McDonald's, c'est l'exemple typique de la boîte qui a bossé pendant plusieurs décennies son algorithme qui lui permet de délivrer un Big Mac exactement de la même manière au Nicaragua qu'au Kyrgyzstan. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont bossé leurs algos, leurs process, leurs playbooks qui leur permettent de transversaliser la connaissance dans le monde entier. Connaissance de comment faire un Big Mac. Et en fait, c'est exactement la même chose quand t'es une agence. C'est-à-dire que ce que tu faisais de façon assez intuitive, en te basant sur ton expertise très artisanale quand t'étais à la tête de ton petit rafio, ouais. Bah là, en fait, tu vas le scaler algorithmiquement avec du playbook, avec du process, un certain nombre d'outils dont on va parler après. Pour permettre à toute une chaîne de valeur qui ne te concerne plus, ouais, de faire exactement la même chose ou la même chose avec 95% des performances. Et je sais pas quel est ton avis là-dessus, tu vois.
Bah, ouais, en vrai, j'ai exactement la même vision que toi, mais c'est juste que j'emploie d'autres mots, type automatisation de processus. Mais la valeur d'une agence, globalement, en fait, une agence, ça réinvente pas la roue. Que ça réinvente l'agence, c'est deux choses. C'est soit on s'adresse à des personnes qui n'ont pas le temps de faire ce qu'on fait. Dans ces cas-là, en fait, on est une agence un petit peu de confort. Tu vois, genre, ok, j'ai juste pas le temps d'avoir un setup vidéo et d'être dans un studio, donc vas-y, je le délègue, parce que pas le temps. Soit t'es une agence qui permet d'apporter une compétence que les entreprises n'ont pas. Et dans ce cas-là, t'es beaucoup plus héroïste. C'est-à-dire que, de toute façon, sans mon action, tu vas pas réussir à faire ce que tu veux faire. Et donc, en fait, le truc, c'est que ce qui va donner de la valeur à son agence, puisque ce n'est pas le produit, parce que sinon, ce serait une start-up, c'est deux choses. Les processus que tu as en interne et les gens qui bossent avec toi. Quand quelqu'un vient racheter une agence, il vient racheter cette boîte noire que tu as réussi à mettre en place, donc à travers un playbook, à travers n'importe quel support qui montre où est-ce que sont les process de ta boîte, et il vient chercher les gens qui travaillent dans la boîte. Donc, le CEO, que quand on rachète une agence, on rachète aussi le CEO et on le lock sur quelques années, et toute l'équipe qui travaille pour lui. Donc c'est pour ça que si tu regardes les Big Four, Capgemini, Wavestone, Sia Partner et EY, la compétition qu'ils ont entre eux, c'est une compétition de talent. Même s'ils n'ont pas le besoin en interne pour faire matcher une compétence intellectuelle avec une mission, ils recrutent quand même les personnes. Et ils savent qu'en fait, leur guerre, c'est une guerre de recrutement, c'est de qui aura les meilleurs cerveaux qui sortent d'école. C'est pour ça que les séminaires sont incroyables, les salaires sont beaucoup plus élevés que dans n'importe quelle autre entreprise, hormis, on va dire, la finance. Et en fait, une fois que tu comprends que c'est ça ce qui drive, c'est-à-dire la partie interne de l'agence et les gens qui y travaillent, tu comprends que c'est ultra important d'être un bon leader, parce que si tu n'arrives pas à fédérer des gens autour de toi, bah malheureusement, il y a un problème. Et c'est pour ça que, encore une fois, il y a une petite barrière et un petit shift intellectuel à faire quand on est freelance. C'est que, mine de rien, freelance, c'est très individualiste. Et en fait, là, ton rôle en tant que CEO d'agence, c'est de faire en sorte que les mecs autour de toi brillent plus que toi et soient encore plus fort que toi. Et du coup, de mettre ton ego de côté, de ouais, par exemple, Andrea, ouais, t'étais bon en SEO, mais maintenant, il y a un mec, il a 50 moins que toi, il est meilleur que toi en SEO. Il faut juste accepter parce que c'est juste pas ton rôle. Toi, ton rôle, c'est de donner la vision, de vendre à de plus en plus haut panier moyen tes prestations et de faire en sorte que les mecs autour de toi soient meilleurs que toi.
Et qu'ils soient absolument meilleurs que toi.
Ouais.
Vraiment.
Oui.
C'est très vite résoudre sa guerre d'ego interne,
ouais.
Et d'accepter d'être moins bon que les gens dans sa boîte, quoi.
Clairement. Mais moi, en fait, tu vois, chez The Quest, dans notre écosystème d'agence, moi, je passe énormément de temps à me nourrir d'informations et à me former sur tous les différents concepts qu'on aborde là. Parce qu'ensuite, mon but, c'est de le donner aux CEO de notre écosystème et qu'eux, en fait, le subliment et l'appliquent dans... main dans le cambouis pour leur agence, tu vois.
Et j'avais vu passer dans une interview Jeff Bezos qui expliquait que s'il repassait les process de recrutement aujourd'hui, donc c'était il y a quelques années, hein, donc Amazon avait 20 ans, il y avait de très très fortes chances, voire même une quasi-certitude qu'il ne soit pas pris.
Ah ouais.
Pas pris dans sa propre boîte aujourd'hui, tellement le niveau d'exigence avec le temps a augmenté. C'est-à-dire que le CEO de Amazon n'aurait potentiellement pas aujourd'hui le niveau d'intégrer sa propre boîte en tant que salarié au siège, quoi.
Intéressant, de ouf. Ça m'étonne pas.
Et c'est nécessaire.
De ouf. Du coup, ouais, ça, traiter son corps comme un sportif de haut niveau, je sais que ça, tu sais, non plus,
ah,
c'est une
valeur. Ah, plaisir de te l'entendre dire.
C'est une valeur qu'il partage. Donc, en vrai, alimentation, sommeil, sport. Alimentation, je le dis d'un point de vue théorique, moi, j'avoue, d'un point de vue perso, ce que j'essaie de faire, c'est pas en gros manger comme un gros porc le midi pour pas que ça casse mon après-midi. Et après, essayer de suivre. Je sais que là, il y a une grosse tendance à ne plus boire d'alcool. Moi, je le mixe personnellement avec le sport parce que je fais pas mal de trail, d'ultra-trail. Donc, dans mes périodes d'entraînement, là, je suis dans une période d'entraînement, je peux pas boire d'alcool. Et après, sommeil, franchement, méga important. Avant, c'était cool d'être le mec ultra... occupé, qui faisait plein de multitasking, qui répondait à plein de mails, plein d'appels dans la journée. Maintenant, c'est beaucoup moins cool et on a compris que c'était pas du tout productif d'être dans ce schéma-là. Et en fait, le sommeil, c'est quelque chose qui, pour ceux qui n'ont pas lu, devraient lire Why We Sleep, qui est hyper important et qui a un impact court-termiste et long-termiste monstrueux. Et du coup, faut bien dormir.
Et t'es un gars des outils ?
Ouais.
Mes outils ?
Je suis un méga gars des outils, je crois que voilà, il y en a quelques-uns là. Globalement, il y a deux types d'outils pour moi. Les outils qu'on utilise d'un point de vue perso et les outils qu'on utilise d'un point de vue équipe. Les outils qu'on utilise d'un point de vue perso, moi je suis un grand fan d'Obsidian pour tout ce qui est prise de notes. Toi, je sais que tu es note iPhone. Et pour la to-do, j'utilise beaucoup Todoist. Et après, outils d'équipe, si vous commencez Notion, c'est bien. Et après, Airtable. Et un truc dont on parle très peu, je trouve, mais qui est une masterclass, notamment d'un point de vue tech, mais surtout d'un point de vue produit, c'est Superhuman. Superhuman, c'est un outil qui permet de gérer tes adresses email. Globalement, c'est... pour moi, c'est le Apple de l'email. Genre, c'est vraiment incroyable. C'est simple, c'est les seuls emails d'update produit que je lis de A à Z et je me dis, ok, tain, ils ont encore sorti une feature qui est incroyable, tu vois. Genre, ils ont intégré l'IA dedans, mais ils ne l'ont pas intégré en mode, t'as un petit truc qui s'affiche, qui est trop relou à utiliser et tout. C'est genre, tu tapes... dire à Benoît que je suis OK pour la vidéo et présenter The Quest. Il a lu tous tes précédents emails, il te fait la présentation de The Quest comme il faut et il t'explique exactement ce qu'il y a dans le contenu de la vidéo. Genre, c'est hallucinant.
Donc, Todoist, Notion, Airtable, Superhuman, ça serait le starter pack, en fait, pour
ouais.
toi pour,
Et un truc que j'utilise tous les jours, mais bon, c'est pas non plus game changer, pour le coup, c'est un peu vitamine C, c'est Past. C'est un truc qui enregistre tous
oui,
mes copier-coller
oui.
ever. Et après, tu peux rechercher dans tes copier-coller avec un raccourci clavier. C'est vraiment... c'est le feu.
Qu'est-ce qu'on vend maintenant ?
Qu'est-ce qu'on vend ? C'est une bonne question. Donc là, dans notre exemple, on vend des websites. Donc, globalement, quand on choisit et qu'on commence à mettre en place une offre, il y a trois marchés. La richesse, les relations et la santé. Comment est-ce qu'on va définir sur quel marché on va se mettre ? On va regarder quatre facteurs. La première, c'est à quel point c'est douloureux. Donc, globalement, pour certains, avoir un site internet, c'est bien, mais c'est pas obligatoire. Pour d'autres, c'est obligatoire. Genre, un restaurant. Ensuite, on va regarder le pouvoir d'achat des personnes qu'on adresse. Donc, s'il vous plaît, ne lancez pas, je vous le dis face à caméra, ne vous lancez pas dans une agence qui aide les étudiants. Les étudiants n'ont pas d'argent, ils cherchent les bons plans, donc vous n'allez pas faire d'argent. Ensuite, la facilité de le target, c'est-à-dire, c'est mieux s'il est sur LinkedIn ou s'ils sont facilement adressables par email. Après, ce n'est pas obligatoire. Plus on va être ce qu'on appelle niché, on va le voir juste après, plus on va pouvoir gérer ça. Et après, marché en croissance, ça, c'est quand même hyper important de se dire, bah, tu ne vas pas te lancer sur un marché qui est genre sur la création de disques physiques pour les ventes de rap. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de décroissance, donc ça va être plus compliqué de se faire une place. Ensuite, une fois qu'on a défini ça, on va justement définir son expertise. Donc là, en l'occurrence, dans notre exemple, c'est à quel point tu es fort pour créer un site internet, mais du coup, sur quelle technologie ? Est-ce que tu fais du code ? Est-ce que tu fais du no-code ? Ou est-ce que tu te dis que tu fais les deux ? Pour ça, tu as plusieurs façons de le faire. Soit tu as déjà eu des clients, et dans ces cas-là, tu fais un tableau de tous tes clients que tu as eu depuis le début, et tu te dis, OK, c'était quoi mon client ? Qu'est-ce que j'ai fait pour lui ? Combien ça m'a coûté, quelle a été ma marge, c'était quoi son entreprise, c'était quoi son chiffre d'affaires, son effectif et tout, genre ultra détaillé. Et tu te dis, OK, bon, bah, sur les 15 missions que j'ai déjà faites, voici celles où j'ai eu le plus de kiff et le plus de marge et celles que je pourrais facilement reproduire. Et donc là, ça t'en ressort un petit peu une offre, tu vois, genre j'ai fait un site sur Webflow pour un e-commerçant qui cherchait à faire ça, ça, ça. Soit tu n'as jamais eu de client et dans ces cas-là, il faut justement faire ce qu'on appelle aller à la recherche de son customer founder fit, donc c'est-à-dire les personnes avec qui tu as envie de travailler. Et donc pour ça, tu as plein de petites actions à faire en amont, mais on peut faire ce qu'on appelle de la user research, donc en fait aller déjà envoyer des messages à son premier réseau et se dire, ah bah tiens, voilà, écoute, je vais me lancer dans telle activité, est-ce que tu es chaud, on se fait un call de 30 minutes pour que je t'explique, tu me dises si ça peut être intéressant pour toi ou que tu me dises pour qui tu penses que ça peut être intéressant. Ça, du coup, c'est pour avoir ton marché. L'importance dans son marché, et donc du coup dans l'offre qu'on va proposer à ce marché-là, c'est de commencer très petit, de se nicher. Oubliez toutes les offres 360 de Community Manager. Genre, moi, quelqu'un qui vient me voir, qui me dit « Hello, je peux te faire ton site internet, ton compte Insta, ton compte Twitter, nurturer les gens, tac, 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 tac. » Ok, non, c'est juste impossible, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas être expert de tout ça. Donc déjà, mettez-vous dans une niche. Ce que je dis souvent, c'est que je prends l'exemple, imaginons, je sais pas, t'as Drake qui veut faire un dîner chez lui avec des gens qui kiffent de malade et il veut de la cuisine japonaise. Bah, il va aller chercher le meilleur cuisinier japonais du monde pour venir faire la cuisine chez lui. Il va pas aller voir un cuisinier qui est capable de faire du japonais, de l'américain, de l'italien, etc., etc.
Le kebab qui fait tacos, pokéball, sushi...
La carte est longue, puis tu te dis, OK, il y a moyen que ce soit du surgelé, soit il y a un rat dans la cuisine, c'est chaud.
Dans tous les cas, on va bien manger.
Donc ça, tu vois, c'est un truc qui peut faire peur de se dire, ah ouais, non, mais là, j'ai eu une demande sur mon site internet, je vais devoir lui dire non, alors qu'en vrai, j'aurais pu le faire. Ouais, t'aurais pu le faire, mais le temps que tu vas passer à le faire, tu le passes pas à devenir encore meilleur sur ta niche. Donc de toute façon, les riches, ils sont dans les niches, ils veulent des gens spécialisés, donc perdez pas de temps là-dessus. Mettez-vous en mode positionnement LVMH et pas Lidl. Essayez pas de satisfaire tout le monde, essayez de satisfaire juste les personnes qui payent bien. Pourquoi c'est intéressant aussi de regarder les niches, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le Rolodex Moment. Je sais pas si tu vois ce que c'est un Rolodex.
Pas du tout.
C'est un truc à l'ancienne, en gros c'est un annuaire que les gens avaient sur leur bureau où ils faisaient comme ça, avec les lettres de l'alphabet pour retrouver les fiches des gens. Tu vois, donc c'est l'ancêtre de l'annuaire. Et en fait un Rolodex Moment, c'est envoyer un message et savoir et dire à vos potes que lui il est spécialisé là-dedans. Et plus vous allez être spécialisé, plus ils vont pouvoir parler de vous. Si par exemple vous êtes coach pour les, si vous avez une agence qui aide les coachs sportifs à avoir plus de clients, bah, dès que vos potes, dès que votre famille va croiser un coach sportif, ils vont parler de vous. Alors que si vous permettez d'avoir plus de clients, mais aussi de leur acheter du matériel et aussi de machin, les gens vont être perdus, ils vont beaucoup moins vous mettre en avant. Donc le bouche à oreille sera beaucoup moins facile.
C'est un super framework qui est très bon proxy. Positionnement, qui est un terme qui veut tout et rien dire, qui est ultra important, super important de bien se positionner, mais ça reste un concept quand même plutôt nébuleux et une méthodologie assez nébuleuse. Là, tu donnes un modèle mental très simple qui est dans quelles circonstances et sur la base de quels besoins et pour qui j'ai envie qu'on pense à moi et à mon produit instantanément en fait. C'est ça le Rolodex Moment, si j'ai bien compris.
Exactement.
Ok.
Et en fait, tu demandes à tes potes, en fait, tu demandes à même tes meilleurs potes et tout, genre, vas-y, qu'est-ce que je fais dans la vie ? C'est quoi mon offre ? Tu vois ? Et si tu fais un peu de post sur les réseaux où c'était un peu visible, s'il n'est pas capable de te dire, c'est que ton message, il n'est pas clair. Tu vois, parce que c'est censé être quelqu'un qui te voit directement, parce qu'il est dans tes amis proches. Tu vois. Okay. Ensuite, une fois que tu as défini un peu ton marché, à qui tu voulais t'adresser, tu vas définir ton offre. Et donc là, il y a un framework qui, pour le coup, a été développé par un Américain qui s'appelle Alex Hormozi, qui est un mec très connu dans la création d'agences, qui explique de manière très simple ce framework-là. La première chose, c'est que tu vas définir les problèmes de ton audience. Donc, si on prend l'exemple du site internet, les problèmes, c'est je ne sais pas faire un site internet, je n'ai pas le temps de le faire, je ne sais pas comment faire un site internet ou une page qui convertit des clients.
Je n'ai pas de site, donc je perds de l'argent.
Bref, tu listes tous tes problèmes. Ensuite, en face de ces problèmes-là, tu vas mettre les solutions. Donc vraiment, tu fais un tableau. Première colonne, tous les problèmes. Deuxième colonne, toutes les solutions. Et là, il faut être de manière méga exhaustive. Genre, comment faire pour créer un site internet ? Bah, soit tu dis, je fais le site internet de mon côté et je lui envoie. Soit tu dis, je vais chez lui et je fais le site internet avec lui sur mon ordi à côté et lui à côté de moi. Enfin, vraiment, tu es méga exhaustif. Soit tu dis, j'organise un webinaire pour montrer à 10 personnes en même temps comment faire un site internet. Enfin, bref, du coup, tu es hyper, hyper large. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer trois autres colonnes qui vont être l'effort que ça va te demander, le prix que ça va te coûter et donc derrière, après, la rentabilité. Mais vraiment, il faut que ce soit long. Hein. Moi, je l'ai déjà fait par exemple, My Name is Bond. On a fait 250 lignes. Donc, ça va être très, 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 très long. Tu vois. Plus c'est exhaustif, mieux c'est. Et ensuite, tu vas récupérer uniquement dans ce tableau-là ceux qui sont à effort faible et à haute rentabilité. Et ça, en fait, c'est ce que tu vas pouvoir mettre dans ton offre. Donc, non seulement tu vas lui dire que tu crées le site internet, mais en plus, tu vas lui dire « Ok, on crée un site internet. En plus, on forme gratuitement deux personnes de votre équipe pour prendre la main ensuite sur le site internet. Vous avez accès à une plateforme de Deezer qui vous montre comment utiliser le CMS. Vous avez accès à ceci, vous avez accès à ça. Et toi, tu le fais vachement bien sur Scalesia. Quand un mec rentre chez toi, il a accès à plein d'éléments, on va dire un peu en add-on, qui font que ça va peut-être être le truc qui va le twister et qui va dire « Ok, en fait, il faut que je signe avec Scalesia parce qu'il y a ça et que le concurrent, il ne l'a pas. » Et là-dessus, sur cet exercice-là, y a un vrai juste milieu à avoir entre ce que fait la concurrence et ce que toi, tu fais. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus team de « je mets des œillères, je m'en fous de ce que fait la concurrence et je fais mon truc à moi. » Si et seulement si, tu es capable de bien écouter le besoin de tes clients et de le convertir en une offre. Quand tu as un retour client ou quand tu as un retour d'un utilisateur dans ta recherche, soit tu peux considérer que le mec, il est juste pas dans ta cible, donc tu le prends pas en compte, soit tu considères que c'est un gars pertinent et que tu dois le mettre en place. Et donc, dans ce cas-là, tu mets ton ego de côté et tu vois comment est-ce que tu peux intégrer son retour dans ton offre, dans ton produit.
Un framework que j'adore aussi, on parle beaucoup de framework, c'est transformer l'objection, les objections en feature.
Ouais.
C'est un exercice qu'on a fait pour la nouvelle version de notre offre là, qu'on a refacto deuxième semestre l'année dernière. On a fait l'inventaire de toutes les objections qu'on recevait en sales. On les a triées par ordre de fréquence et on a récupéré les 20% les plus mentionnés et on a bossé une feature pour chacune qu'on a inclus dans l'offre qui répond de fait à cette difficulté-là, à cette friction, cette objection, donc cette friction, donc cette difficulté. Et en fait, ça nous a permis de mécaniquement répondre à 80% des objections qu'on recevait. Et ça, c'est un truc que n'importe qui peut faire et qui change absolument tout.
Ouais.
Parce que tu vas transformer des points de blocage en points, au contraire, de déblocage. Quoi.
C'est hyper vrai. Et tu sais, j'ai animé un podcast qui s'appelle Secret d'agence où je vais chercher tu vois, les CEO des agences et j'ai un framework très simple pour savoir si l'agence a compris le jeu auquel elle jouait et ses clients, c'est que je vais regarder les FAQ du site. Si quand je lis le site internet et qu'à la fin j'arrive au FAQ et que les FAQ c'est les questions que j'ai dans ma tête et qu'il est en train d'y répondre, je me dis ok, il a compris, il a itéré. Parce que tu vois, les FAQ c'est facile de les créer et de les mettre d'un point de vue statique. Mais les meilleurs sites internet, ils itèrent ça justement avec les retours clients. Ils disent « Ok, mais en fait, lui m'a demandé 18 fois s'il pouvait être remboursé, si l'abonnement était annulable, si ceci, si cela. » Et du coup, en fait, plus les FAQ sont pertinentes, plus le gars, tu sais qu'il a compris son audience et le jeu qu'il jouait.
J'espère que c'est ce que tu t'es dit quand tu as lu nos FAQ.
Toi, ça va, j'ai pas fait ce framework-là. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a l'offre, il va falloir bien sûr lui donner un nom. Et ça, moi, j'avoue, je suis pas excellent là-dedans. On a Blondie dans notre équipe qui est super bon en branding. Je pense que toi aussi, tu pourrais bien lui donner. Il y a Russell Brunson qui est quelqu'un hyper respecté aux États-Unis.
ClickFunnel.
Hein?
ClickFunnel.
De ClickFunnel, exactement. Qui a dit, quand t'as $1 à dépenser en ads, à partir du moment où t'as donné un nom ou un titre à ton ads, t'as dépensé 99 cents. Donc en gros, il faut ultra soigner le nom de son offre et faire quelque chose de très novateur. Et après, la dernière étape, une fois qu'on a notre offre, c'est de créer un support. Créer un support pour le mettre en place. Et je dis bien support, pas forcément site internet. Vous pouvez créer une page Notion que vous mettez publiquement. Nous, on a atteint avec My Name is Bond les 10 000 euros de MRR par mois sans avoir de site internet. Donc, vous bloquez pas en mode ouais, j'ai pas de nom, j'ai pas de branding, j'ai pas de machin. Nous, notre icône à la base, c'était un emoji. Donc, là-dessus, focalisez-vous plutôt sur ce que vous allez apporter à vos clients et sur votre produit. Le support, votre site internet, tout, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche au début. Et si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Framer. Et sur Framer, il y a une feature qui s'appelle Framer AI, où en fait, vous pouvez écrire un prompt qui vous génère un site internet automatiquement et vous pouvez le publier sur internet et l'utiliser avec pas un nom de domaine personnalisé, mais juste un framer.ai. Et donc, ça vous permet de tester super facilement votre site. On a fait tout ça. Maintenant, le but, c'est qu'il y a un maximum de personnes dans le monde qui connaissent notre offre et c'est la partie sales. Dans la partie sales, globalement, la première étape, c'est de définir son Bob, qui est son persona, quelle est la personne ultime à qui on va parler. Donc pour ça, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire un tableau de toutes les différentes prestations que vous avez pu faire avant et définir quelles sont les catégories qui définissent ce persona. Est-ce que c'est un CMO? Est-ce que c'est un CEO? Est-ce que c'est un gars qui travaille dans une entreprise de 500 employés, 2000 employés, 10 000 employés? Bref, avoir un maximum de questions. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour faire connaître votre offre, c'est créer ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est la réponse complète à un problème donné qui ouvre un deuxième problème et ce deuxième problème sera résolu par votre offre. Ça peut avoir plusieurs types de représentations physiques. Ça peut être un e-book, ça peut être un site internet, ça peut être ce qu'on appelle des micro-tools. Maintenant, avec ChatGPT, c'est beaucoup plus facile de faire des micro-tools. Donc, il y a plein de gens qui font des micro-tools. Genre, par exemple, là, pour les sites internet, c'est... tu remplis un questionnaire avec ta charte graphique et il y a un micro-tool qui crée une toute première petite ébauche d'un site internet. Voilà, ça peut être ça qui va attirer. En parallèle, vous allez récupérer l'email ou le numéro de téléphone et ensuite vous le rappelez en mode « Alors, t'as kiffé ton site internet? Viens, on fait un site internet ensemble. Viens, tu payes 10 000 euros. »
Et attention sur les lead magnets. Les lead magnets, c'est pas un produit pourri.
Ouais.
C'est pas un document pourri qui va juste être un prétexte pour choper du mail. Non, non, c'est quelque chose que vous avez donné gratuitement, mais qui est tellement qualitatif que vous auriez très bien pu le vendre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une super boussole, ton niveau de malaise à l'idée de donner le truc gratuitement. Donc, si tu te dis, non, mais là, cet outil, cette ressource, ce PDF, je pourrais le donner, je pourrais le vendre, en fait, X dizaines d'euros, 70-80 balles, c'est un super, super lead magnet, au contraire. Donc, go. Faut juste, tu parlais tout à l'heure de savoir à quel jeu on joue.
Ouais.
Si ton jeu, c'est de vendre des offres high ticket, on done for you ou on done with you, et que le do it yourself ne fait pas partie de ton business model, t'as absolument aucun intérêt à aller vendre des petits produits comme ça, en tout cas dans un premier temps. Donc, au contraire, capitalise dessus. Et la pire chose que tu puisses faire avec un lead magnet, à mon sens, c'est de justement jouer la carte de la flemme. J'en donne le moins possible juste pour aller, comme on l'a dit, choper un mail pour ensuite pouvoir canarder. Non, non. Le lead magnet doit ravir ton client et c'est la même approche, c'est la même logique que le MVP. Le MVP, c'est pas un produit qui essaie de tout faire mal. C'est un produit qui fait un seul truc parmi la grande myriade de features que tu prédis, que tu prévois, que tu envisages à terme, mais qui le fait extrêmement bien. Le lead magnet, c'est pareil. Ça va être par exemple, on reprend l'exemple du site internet.
Ouais.
Ça va être, ce que tu aurais vendu en Date for You, un step by step. Voilà, on va vous expliquer, donne les secrets avant l'implémentation. On va vous expliquer de A à Z comment construire votre propre site web en autonomie tout seul. Ou alors, ça va être, 15 templates de sites web sur Webflow à utiliser dès aujourd'hui. Ça va être, par exemple, comment rédiger une homepage parfaite avec des modèles ChatGPT prêts à l'emploi et des verbatim. Ouais. Et des choses que tu pourrais très bien vendre en do-it-yourself, sans aucun problème, et qui vont tellement bluffer ton client que derrière, c'est évident que soit en fait, il le fera, il exécutera sur cette base-là et il t'en sera reconnaissant, il en parlera autour de lui. Soit en fait, il se rendra compte que la marche à gravir pour atteindre ce niveau-là de résultat et en vertu du temps en plus qu'il n'a pas est trop importante. Et donc en fait, il t'appellera par définition pour le faire à sa place. Et donc surtout pas se tromper sur la profondeur de qualité d'un lead magnet, parce que ça change absolument tout dans une campagne, dans une démarche d'acquisition, quoi.
Ouais, de ouf. Et si tu manques d'idées, en effet, tu peux faire deux choses. Soit regarder ce que toi, tu fais concrètement dans ton agence pour délivrer tes clients existants, soit regarder justement dans le travail qu'on a expliqué de quels sont les problèmes de mon audience. Et c'est là, du coup, c'est hyper important d'avoir une audience nichée, parce que plus tu es niché, plus tu vas vraiment répondre à un besoin, tu vois. Par exemple, si tu fais un lead magnet qui dit « devenez plus productif », bah ouais, mais ça parle à tout le monde et ça parle à personne. Par contre, si tu dis « devenez productif pour les équipes de sales qui travaillent dans des entreprises qui font entre 1 million et 5 millions de CA et qui vendent des SaaS », bah là, tu vas parler déjà à une beaucoup plus petite population, et ceux qui vont lire, si c'est ultra niché, même pour toi, pour le produire, ce sera beaucoup plus facile, parce que tu parleras les bons termes et les mêmes termes qu'eux. Bah derrière, après, en effet, ils vont passer par toi s'ils ont kiffé.
Clairement.
Ensuite, du coup, on a ce qu'on appelle « tester des canaux d'acquisition ». Globalement, pour faire simple, parce que c'est un sujet très large qui pourrait être toute une vidéo, voire toute une formation, les canaux d'acquisition, vous en avez deux. Il y a ceux que vous allez utiliser de 0 à 1 million d'euros, à peu près, et il y a ceux que vous allez utiliser de 1 million à 5 millions. Pour ceux que vous allez utiliser de 0 à 1 million, globalement, on va dire que c'est un petit peu de l'inbound, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire connaître vachement votre agence pour que derrière, les gens vous contactent. Donc ça peut se faire par les réseaux sociaux, ça peut se faire par des événements physiques, donc aller serrer des paluches à droite à gauche, ça peut se faire par plein de moyens. Ensuite, une fois que vous avez dépassé le million, il faut rentrer dans une autre stratégie qui est une stratégie un petit peu de scalabilité, c'est-à-dire de à quel point ce que j'utilise va être répétable. Et donc en fait, votre canal d'acquisition, il faut le voir comme une machine à sous, et il faut le voir comme un endroit où tu mets une pièce et il en ressort deux ou trois. Et si vous avez réussi à faire ça, c'est-à-dire que plus vous allez mettre d'argent dans la machine, plus il va en ressortir. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle littéralement craquer un canal d'acquisition. Si votre canal d'acquisition est uniquement lié à votre personne et à votre image, le problème, c'est que c'est difficile de vous dupliquer. Il y a des moyens avec des médias de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu de très haute qualité. Mais idéalement, il faut s'affranchir de, entre guillemets, la tyrannie des réseaux et donc la tyrannie des algorithmes. Ce qui fait que si demain, par exemple, votre reach LinkedIn tombe complètement aux oubliettes parce que mise à jour, il ne faut pas que ça impacte directement votre business. Donc pour faire ça, par exemple, vous pouvez créer des email lists, vous pouvez avoir de la présence sur d'autres réseaux, ou vous pouvez faire des ads, faire du SEO, ou bien faire du call et du warm emailing.
À partir de quel moment, c'est quoi le timing selon toi pour diversifier ces canaux?
En fait, je pense que nous, on l'a vu, tu vois, c'est un exercice qu'on a vu sur nos agences. On a eu, entre guillemets, beaucoup de chance. On a eu un alignement des planètes sur les trois premières années où, en fait, on n'a jamais payé pour faire de l'acquisition. On a une agence de SEO qui s'appelle SEO Secret. Et en fait, on a eu beaucoup de leads dès le démarrage parce que je pense qu'on avait un positionnement qui était différenciant et un bon branding. Et en fait, on a eu beaucoup, beaucoup d'inbound. C'est-à-dire les gens sont venus à nous jusqu'à ce qu'en fait, il y ait un espèce de plateau de verre, tu vois, où on a senti que la croissance stagnait parce qu'il n'y avait pas assez de leads, ou du moins pas assez de leads de qualité. Et là, en fait, du coup, tu te mets dans la démarche de te dire, OK, mais en fait, à qui je m'adresse, c'est quoi la population, à qui je dois dire non, à qui je dois dire oui, etc. Et donc là, en fait, tu vas faire instinctivement ce travail-là qu'on a fait, tu vois, il y a 6 mois et que là, on met en place et qu'on commence à récolter tous les fruits des graines qu'on a semées. Okay.
Et donc, tu as toujours une phase transitive. Hein. Ça ne se fait pas naturellement comme ça. Hein. Jamais. Hein.
Toujours, parce que je pense qu'en fait, je pense que... La structure d'une agence pour faire de 0 à 1 est drastiquement pas la même que celle pour faire de 1 à 5 ou de 1 à 10, tu vois. Et donc, ce qui marche dans la première étape ne marche pas dans la deuxième. Et ça, il y a un vrai changement de paradigme à effectuer.
Et c'est quelque chose que tu as observé vraiment, enfin, ça reste des ordres de grandeur arbitraires, hein, 0 à 1 million, ouais. Mais c'est quelque chose qui, sur la grande masse des boîtes sur lesquelles tu as bossé, qui se vérifie ou pas?
Ouais, franchement, ça se vérifie et surtout, ça se sent au moment où... en fait, quand tu commences à recruter, par exemple, dans ton pôle sales, tu as deux types de sales. Tu as ceux qui cherchent les mines d'or et tu as ceux qui minent dans la mine d'or. Si tu recrutes quelqu'un qui doit aller chercher des mines d'or, c'est-à-dire chercher où avoir des nouveaux prospects et où avoir des nouveaux clients, bah, ça n'a rien à voir avec un profil où tu lui dis « Écoute, c'est simple, là, il y a un formulaire. » Demain, il y a 20 personnes qui vont remplir ce formulaire, tu les appelles un par un et tu leur proposes le service. Ça, tu vois, c'est le mec qui mine dans la mine d'or. Et en fait, si tu n'as pas bien compris où est-ce qu'était ta mine d'or et que tu n'as pas un bon canal d'acquisition par rapport à cette mine d'or, tu ne vas pas réussir à pouvoir déléguer, tu vois. Parce que dans un premier temps, c'est le CEO qui fait les ventes. Donc, vas-y, tu connais bien ton sujet, tu as une belle gueule, tu présentes bien, tu arrives à bien closer. Mais quand tu demandes à quelqu'un que tu connais Nidia Vintadan, que tu recrutes, de dire « Ok, maintenant, c'est à toi de closer. Voici les objections. Voici comment tu dois les traiter. Voici ce que tu dois raconter à tel moment. Voici comment tu dois relancer le client, etc. etc. » Là, c'est un tout autre game. Et si tu n'as pas bien compris ton game d'agence, que tu ne l'as pas bien écrit sur un papier, bah, la transition ne va pas bien se faire. Et souvent, les gens disent « Ouais, le recrutement, c'est super dur. » Ouais, le recrutement, c'est super dur parce que c'est un jeu d'humain. Mais c'est aussi dur parce que tu n'as pas compris ton business. Et que si tu n'as pas bien compris ton business, c'est impossible de le déléguer. Parce que tu cherches un mec qui te ressemble, sauf que personne ne te ressemble. Et tu ne peux pas demander à un mec qui n'a pas de part dans la boîte de faire, d'avoir la même implication qu'un gars qui a des parts dans la boîte. Une fois que tu as trouvé ton canal d'acquisition, il y a ce qu'on appelle le nurturing. C'est-à-dire que c'est cool d'avoir un vivier. Et bon, encore une fois, il faut l'occuper. Il faut le maintenir. Et un peu comme une braise de feu, il faut être sûr de réussir à closer un maximum de personnes. Et donc là, on a ce qu'on appelle le nurturing, donc avec des setters. Donc par exemple, si vous avez plein de leads, donc là par exemple votre création de site internet, si on se dit que vos prospects ils sont situés sur LinkedIn, bah, vous pouvez faire un webinaire qui explique de A à Z comment créer un site internet sur Webflow et ensuite relancer toutes ces personnes-là une par une et continuer à les mettre pareil dans un écosystème. Et enfin après, dernière étape, on les close. Donc là, il y a des techniques de closing, il faut avoir des bonnes présentations et surtout, il faut se taire. C'est-à-dire que quand on est dans un call de closing, on parle 10% de son temps et on écoute le prospect 90% de son temps. La meilleure chose à faire pour closer quelqu'un, c'est d'arriver dans le call et de nous dire « Ok, c'est quoi ton besoin ?» Et en fait, la personne va expliquer son besoin et en fonction de ce qu'elle nous dit, on adapte son offre et son discours par rapport à son besoin à elle. Vous êtes là pour la satisfaire lui. Donc, si vous êtes quelqu'un d'imbu et que vous n'écoutez pas les autres, c'est mort. Quatrième étape, du coup, la production. Le client a mis sa carte bleue sur site internet, qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a plusieurs parties. La première, c'est comment onboarder un client. Moi, je vois les agences comme un SaaS. C'est-à-dire que je veux qu'ils aient un onboarding aussi beau gosse et aussi étudié que le font les SaaS. Donc, j'ai la fameuse règle des 48 heures. C'est-à-dire que comment je fais pour avoir une quick win avec mon client en moins de 48 heures? Pour ça, il faut bien savoir ce qu'on va lui apporter. Donc là, typiquement, la quick win, c'est tout bête, mais c'est de dire, si on prend l'exemple du site internet, le gars a mis sa carte, il sait qu'il va recevoir son site internet dans 3 semaines. Dans les 48 premières heures, on lui envoie une première ébauche. Et on lui dit, ah bah tiens, j'ai bossé là-dessus, voici une première ébauche de ce à quoi ça va ressembler. Ou alors, on lui fait une maquette, par exemple, d'un point de vue design. Comment ? Ça, c'est ton rôle de CEO de réussir en moins de 48 heures à faire ce taf-là. Et c'est là que doit être 100% de ton focus. C'est pour ça que dire non à certains clients, c'est te donner l'occasion d'avoir plus de temps pour faire cette tâche-là et de la rendre parfaite. Ensuite, il y a la partie comment maintenir la relation avec le client. Là, il y a un truc, il y a deux trucs hyper importants. Le premier, c'est être humain. Ça reste un business d'humain. C'est pour ça que les gens qui ont de l'empathie, qui comprennent les autres, y arrivent mieux dans les boîtes de service. Et la deuxième chose, c'est la communication et le dashboard client. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qu'ils utilisent pour communiquer avec un client. Il y a aujourd'hui, je pense, 90% qui communiquent avec leur client uniquement par email. Or, le client, ce qu'il veut, lui, c'est être sûr que tu es en train de bosser sur son projet et savoir exactement où on en est dans les étapes du projet. Donc, si tu n'as pas beaucoup de clients, tu peux faire des calls avec eux de manière rapprochée, Mais le client, le but, c'est de lui faciliter le travail. Il a quand même payé quelqu'un pour déléguer une partie de son action. Soit tu peux lui créer un dashboard client. Et dans ces cas-là, dans le dashboard, il retrouve toutes ses informations au même endroit. Et c'est un dashboard qui doit être vivant. C'est-à-dire qu'en fonction des feedbacks que le client te donne, tu vas l'améliorer. Ensuite, il y a une partie qui va être sur augmenter la LTV. C'est-à-dire la LTV, ça veut dire lifetime value. C'est quand tu closes un client, combien est-ce qu'il va t'apporter en chiffre d'affaires ? Ça veut dire que toi, en tant qu'agence, un, tu dois pricer assez cher, mais surtout, tu dois réfléchir à comment est-ce que tu vas pouvoir soit l'upsell, c'est-à-dire lui proposer des versions améliorées de ta première version de produit, soit le maintenir en prod sur de l'abonnement. Donc là, avec les sites internet, c'est assez classique dans le sens où on dit « Ok, on crée ton site internet et après, tu as un abonnement à 300 euros par mois où on prend en charge le coût de l'outil et si tu as des modifications à faire mineures sur le site internet, on les fait pour toi. » Et enfin, tu as une partie sur comment offboarder un client. Parce que c'est un truc dont on parle très peu, mais qui est hyper important. C'est évidemment que dans le cycle de vie d'un client, bah à un moment donné, il va quitter ton agence. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pareil, il y a trois choses hyper importantes à avoir en tête. La première, c'est de demander un témoignage, donc un avis client. Centralise-le au même endroit, que ce soit une fiche Google My Business, un Trustpilot, un avis en vidéo, ce que vous voulez, vous le faites. D'ailleurs, petit tips qu'on utilise nous pour nos agences, c'est qu'on envoie toujours un mail en disant « Merci d'avoir travaillé avec nous, n'hésite pas à noter la prestation. » Et dans le « Noter la prestation », on met une image, en fait on met deux images dans le corps du mail. Sur les trois premières étoiles, s'il clique, il est renvoyé vers un formulaire Airtable. Et sur l'étoile 4 et l'étoile 5, s'il clique, il est envoyé sur la page Trustpilot. Ce qui fait que les gens qui sont contents, ils vont sur Trustpilot. Les gens qui ne sont pas contents, ils ne vont pas sur Trustpilot, ils vont sur un formulaire. Et là, le formulaire, hyper important, c'est quelles sont les questions que tu veux lui poser. Dans les raisons qui vont lui dire « Ok, bah, tu n'as pas été satisfait de la prestation, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a une typologie de questions qu'il faut bien étudier, c'est « C'était trop cher ». La réponse « C'était trop cher » ne peut pas exister. Ce n'est pas une réponse parce qu'au moment où le mec a signé, il connaissait le prix. Donc la question derrière, c'est la valeur que j'ai eue par rapport à ce que j'ai payé, donc la valeur que j'ai perçue du service, n'a pas été à la hauteur. Et donc ça, il faut le décomposer. Ok, c'est quoi, qu'est-ce qui n'a pas été à la hauteur ? Si tu as arrêté avec nous, comment tu vas le faire ensuite ? Est-ce que tu vas passer par une autre agence ? Est-ce que tu vas le faire en interne ? Est-ce que ceci, est-ce que cela ? Et ça, il faut avoir un énorme arbre de décision pour ensuite savoir, ok, où est-ce que je vais ensuite aller améliorer mes différents points.
Tu parlais de recherche utilisateur tout à l'heure ?
Ouais.
Comment tu procèdes ? Quand tu es avec un client en call, tu poses quelles questions ? Est-ce que tu as des questions un petit peu thématiques, un petit peu récurrentes que tu vas poser ?
C'est un truc qu'on faisait pas beaucoup, très mal avant et qu'on fait beaucoup mieux parce que j'ai fait un coaching avec un Américain justement qui, eux, le font de manière très agressive, genre remplis ce formulaire et je te donne 100 euros sur Amazon gratuit. En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque point client, et je suis allé dans un à un dans les calls clients avec les personnes de mon équipe pour leur dire « Ok, genre tu vas délivrer ce que tu dois lui délivrer pendant le call de suivi client, mais tu vas aussi comprendre quelle est son utilisation de la plateforme. » Donc nous, par exemple, on a créé une plateforme, on dit « Ok, vous avez eu le temps d'aller sur la plateforme ?» Non, franchement, j'ai pas eu le temps. Ah, vous avez pas eu le temps, pourquoi ? Parce que vous trouvez que la plateforme, elle a pas de valeur ? Parce que vous allez chercher l'information ailleurs ? Si oui, où ? Tac, tac, tac. Et en fait, il faut anticiper le churn, c'est-à-dire qu'il faut anticiper l'envie du client de partir. Et en fait, faire des points réguliers ou aller palper le pouls des clients de manière assez régulière, c'est hyper important. Et donc, en se dégageant du temps dans sa semaine, on est capable d'avoir plus de temps pour... c'est tout bête, mais il y a très peu d'agences qui prennent leur téléphone et qui appellent de manière incongrue leurs clients en disant « Hello, ça va ? Ouais, petit check-up pour savoir si tout va bien, t'es content de la mission, ça se passe bien. » Tu vois, et ça, c'est du bon sens, en fait. Et le mettre en place, c'est game changer sur le long terme pour son agence. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de bonne réponse sur comment développer une agence. Les seules bonnes réponses, elles se trouvent dans les clients. Donc, plus tu passes du temps avec tes clients, plus tu vas améliorer ton produit.
Relation directe entre la fréquence et l'intensité de tes interactions avec tes clients et ton marché plus largement parlé et tes chances de réussite. Vraiment, c'est hallucinant.
Et c'est un truc tu vois, qui s'explique beaucoup, mais que peu d'agences font, c'est les boucles d'itération. Quoi. C'est genre, j'ai fait toute la chaîne de valeur, à la fin, si tu reviens pas tu vois, au premier point, c'est-à-dire les sales, si... le feedback produit n'est pas envoyé aux sales pour ensuite dire lors des calls de onboarding, n'oubliez pas que là, on est en train de faire un site internet, on n'est pas en train de faire une application mobile. Donc, si vous voulez une application mobile, n'hésitez pas à nous le dire, on va le mettre dans le devis. parce qu'il y a un gars qui a dit, mais je comprends pas, le site internet sur mobile, il est nul. Tu vois, c'est tout con, mais c'est un truc qui nous est déjà arrivé. Et on s'est dit, mais dans le devis, on n'avait pas mis le responsive. Alors que, évidemment, 90% des gens vont regarder sur le téléphone, tu vois, le site internet. Et donc, ça, c'est plein de choses où, en fait, il faut faire en sorte que toutes les parties de l'agence se parlent, bien que leur métier soit très divisé.
La transaction, et avant les transactions, il y a du relationnel. Ça change absolument tout.
Ouais.
Surtout pour du service. Enfin, surtout pour. Franchement, les boîtes qui font du SaaS, qui font du self-service, mais qui rajoutent un énorme relationnel, ouais, ont absolument tout compris, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ça fait tout.
Salesforce, hein.
Salesforce, ouais. Exactement. Et ne surtout pas sous-estimer. Et le truc, c'est on enfonce peut-être des portes ouvertes. Hein.
C'est très dur dans l'opérationnel.
C'est très dur dans l'opérationnel et on le fait jamais assez. C'est-à-dire que c'est une asymptote. On ne parle jamais assez à ses clients.
Ouais.
Dans l'absolu, idéalement, il faudrait qu'on passe 90% de notre temps à parler à nos clients. On le fait jamais assez. Donc, c'est possible. Enfin, c'est possible de le faire beaucoup, mais même en le faisant beaucoup, on ne le fait pas assez. Et il y a 99% des boîtes ne le font clairement pas assez.
Ouais.
Voire même pas. Il y a un nombre de boîtes qui ne le font pas.
Parce qu'on travaille mal,
ouais,
en fait, parce qu'on est submergé par les actions qu'on pense hyper importantes, alors qu'en fait, c'est pas ça, elle est pas là.
Et le nombre d'entrepreneurs qui ont peur, qui ont peur des interactions avec leurs clients, parce qu'ils ont peur de se manger la réalité en face, la réalité de ce qui va pas. Et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on pense.
Et il y a un autre phénomène aussi que tu vois que j'ai vu, c'est que, en fait, t'es en communication constante avec les clients mécontents. Et les clients pas contents, en fait, ils te prennent pas de temps parce qu'ils sont juste contents. Et donc, en fait, ce que je fais, moi, souvent, c'est quand j'arrive dans un call, maintenant, je le fais moins, mais quand j'arrive dans un call et que je me dis, OK, lui va me détruire, lui, c'est sûr, il est pas content, je me remémore tous les clients contents de mon service et tu reprends un petit peu de la confiance dans, OK, moi, mon produit, il est stylé. Là, mon objectif, c'est de comprendre pourquoi, pour lui, ça marche pas. Et où est-ce que je peux avoir une influence pour que ça marche pas? Et après, derrière, de mettre en place des actions de réduction commerciale, je t'offre une demi-journée de consulting, après, vous mettez en place les actions qu'il faut mettre en place, mais se dire, ne jamais oublier que, OK, tu vois, là, avec My Name is Bond, on va bientôt atteindre les 70 000 euros de MRR. Genre, oui, il y a des clients qui ne sont pas contents. Ouais, mais on fait quand même 70K de MRR à 3 personnes, tu vois. Donc, il y a quand même des trucs qui vont bien, quoi.
On a créé un truc, nous, chez Skizia, on a un canal Slack qui s'appelle le canal de la win. Où on va partager tous les win clients et tous les assets correspondants. Donc les screenshots des conversations Slack, les screenshots des posts LinkedIn des clients qui partagent leur win, les screenshots de certains qui vont commenter pour nous recommander, ainsi de suite. Et on va tout agréger ensuite dans un Notion qui est qu'on appelle le Wall of Love. On met toutes les victoires comme ça, vraiment brut de décoffrage en vrac, et ça devient un asset énorme parce que c'est un asset de cohésion en interne. Parce que comme tu l'as dit, ça te donne une énorme réassurance, ça te booste, ça te montre au quotidien et quand on a besoin que ce que tu fais ça marche, que ça apporte du putain de résultat. Et donc ça te permet de relativiser aussi certains retours négatifs, surtout quand t'es en période de R&D comme on l'est. Et même si la R&D est constante, et ça te permet en plus de ça de transformer ça en sales asset, donc en asset commercial, parce que ça tu peux le valoriser, tu peux l'envoyer à tes prospects pour dire voilà ce que nos clients en pensent concrètement. C'est des captures d'écran. On n'est pas assez bon en Photoshop pour truquer ça. regardez, faites-vous plaisir et on en discute quoi.
Je viens de le noter dans mon to-do list. je vais le dire à tous les CEO d'agences qu'on accompagne ce soir.
Sachant tout. Et tout le monde dans l'équipe est super content de venir partager son win client, quoi. C'est génial.
Mais tu vois, typiquement, si tu prends cette action-là, au bout du chemin, c'est un énorme asset, je suis d'accord avec toi. Mais si tu sais pas dès le début pourquoi tu le fais et à quel point c'est un asset important, tu vas pas avoir la routine de te le mettre dans le Notion à chaque fois. Tu vois. Alors qu'en réalité, en plus, nous, c'est les trucs qu'on fait sur WhatsApp ou sur Slack de se les envoyer, mais d'avoir la rigueur de la routine de se mettre dans un Notion, c'est parce qu'il faut comprendre à quel point ça peut être game changer pour les clients que t'accompagnes et pour les clients que t'accompagneras plus tard.
C'est un truc très sous-côté, mais le vrai ciment d'une entreprise, c'est la communication. Vraiment. C'est la transversalisation de l'information. On parlait d'asymptote tout à l'heure. On communique jamais assez
Ouais. C'est jamais assez bien dans une entreprise. On communique jamais assez bien en interne, entre inter-équipe, inter-individuel, et on est jamais assez bien à l'extérieur, avec ses clients, avec son marché. Jamais assez. Ouais. Jamais assez bien. Ça, c'est vraiment un truc à garder en tête, selon moi. Et le truc, c'est que la communication, bah, c'est répéter des trucs chiants comme ça, en fait. Mm. C'est prendre cette habitude-là, ouais, de partager un truc sur Notion. Des choses qui vont nous paraître anodines, des choses qu'on a constatées, nous. Le win client, le message client, on l'a reçu. Mais potentiellement, dans l'équipe, il y a quelqu'un qu'on a besoin, en fait. Mm. Qui est en train de douter de ses capacités, qui est en train de douter du bien fondé du produit, qui est en train de douter de la stratégie. Et il y a très forte chance que ça annihile une bonne partie de ces doutes à l'instant T, tu vois. Ouais. Et la fréquence, la systématique de ces interactions et de cette communication, ça devient, ouais, un énorme avantage comparatif pour une boîte. Et pareil, c'est, oui, ça demande un effort conséquent, ça demande de vraies habitudes, de vrais process, mais ça change absolument tout à long terme. C'est hallucinant. Et donc, ouais, après, tu peux mettre en place des environnements comme ça qui te permettent de centraliser. Mais ce travail de centralisation, il est fondamental.
Donc, tout ça, c'est pour garder son client et jamais oublier, du coup, la boucle de rétro-feedback et de renvoyer les informations au début du funnel pour qu'ils arrivent à le faire.
Et alors, j'ai une question. C'est quoi les principales causes de churn, si on devait revenir au premier principe du churn, donc du départ d'un client, ouais, que tu as pu constater, toi?
Je devrais pas dire ça, mais en réalité, un bon client, c'est un client qui se fait accompagner par une agence, qui comprend comment l'agence fonctionne et qui ensuite internalise la compétence. Tu vois, normalement, une très bonne entreprise qui fait de la croissance et qui a une bonne vision, elle est pas censée utiliser une agence pendant trop longtemps. Tu vois, elle est censée, si elle voit, en fait, si elle voit que ce que fait l'agence est game changer pour son business, bah prends-le en interne. Tu vois, et si tu vois que bah c'est pas si game changer, bah dans ces cas-là, juste arrête de le faire. Sauf sur quelques tâches, tu vois, très spécifiques. Par exemple, tu as des gens qui, leur offre, c'est de monter des ordinateurs de toutes pièces. Du coup, ils ont des réductions à l'échelle parce qu'ils achètent les pièces séparées. Ensuite, ils les montent et ils apportent les postes de travail aux entreprises, tu vois. Ça, c'est une entreprise, par exemple, qui s'appelle Celeris qui le fait. Et en fait, même si tu utilises ce service-là, derrière, il y a quand même un savoir-faire et surtout un unfair advantage à avoir des prix de gros avec les fournisseurs et à être capable de bien assembler les ordinateurs. Pour des entreprises comme L'Oréal, ils ont un service informatique, mais ils ne vont pas former les gens à monter tous les ordi, tu vois.
C'est de l'ultra spécifique.
Ouais, ultra spécifique.
Ou alors énorme expertise métier.
Ouais.
Typiquement expertise comptable.
Ouais.
Tu n'as pas forcément recruté un expert comptable en interne. En tout cas. Pas si t'as pas passé un certain cap de croissance, quoi.
Ouais, exact. Ou par exemple, tu vois, les studios de podcast. Genre, les studios de podcast, tu peux l'externaliser parce que, vas-y, ton cœur, tu vas pas l'utiliser tout le temps, tu vas pas payer un CDI toute l'année pour que le mec il tourne deux semaines dans l'année et tu vas pas acheter tout le matos, tu vois, ça va te coûter beaucoup plus cher, quoi. Donc, il y a quelques métiers où, hein, mais sinon, si c'est game changer, il faut l'internaliser pour les bonnes boîtes. Donc, la première raison du churn, c'est on l'a internalisé en interne. L'une des premières raisons. Une autre raison, c'est on n'a plus le budget pour. Et ça, malheureusement, c'est de ta faute. C'est-à-dire que c'est toi qui n'es pas allé chercher les bons clients qui, du coup, n'ont pas les bons types de business, tu vois. Nous, il y a un moment, sur My Name is Bond et sur SEO Secret, l'une des raisons du churn, c'était que les boîtes fermaient, fondamentalement parlant. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le milieu de la restauration. Si vous accompagnez des restaurateurs avec votre agence, les niveaux de churn peuvent être plus élevés parce que tout simplement, c'est un marché où les gens ferment leur business. Donc ça tu peux rien y faire. Et de manière générale, de toute façon, tu as deux types de churn, celui où tu as de l'impact et celui où tu n'as pas d'impact. Évidemment, il faut énormément bosser sur ceux où tu peux avoir de l'impact.
Et, ouais. Au niveau de l'internalisation, tu as une opportunité d'upsell qui est énorme. Upsell, c'est vendre des services complémentaires. Parce que on parlait de done for you et done with you.
Ouais.
Bah en fait, tu peux très bien là basculer de ton done for you pour dire OK, vous voulez internaliser, super bonne idée. Bah on va basculer sur une offre done for you où on va vous accompagner pendant 6 mois, 1 an pour recruter la bonne personne, mettre en place les bons process en interne pour l'onboarder, et faire en sorte qu'en fait vous l'internalisiez le mieux possible pour faire en sorte que d'ici un an vous soyez autonome. Et bim, là tu passes en conseil, accompagnement, ce que tu veux, tu rallonges la collaboration d'un an et tu fais exploser ta LTV comme ça. Donc en fait t'as une belle connectique, et ça fait aussi partie de ton offboarding, sous là ton offboarding il va durer un an quoi.
De ouf. Et pour le coup ça c'est des mentalités business qui ont vachement évolué, peut-être par rapport au confinement et tu vois, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de head of sales externalisés, alors qu'avant, tu vois, les sales, c'était impensable de se dire que c'était pas en interne, tu vois. Mais aujourd'hui, comme ça va tellement vite en termes de technique et en termes de nouvelles technologies, qu'en fait, bah, les head of sales externalisés, ça te permet aussi de rester à la page et d'avoir un gars qui fait que grinder sur YouTube ou sur des formations et qui a les meilleures techniques adaptées aux différents besoins, tu vois. Donc ça, c'est tout, sur toute la partie offboarding. Et ensuite vient la dernière partie, qui est la partie développement. Qu'est-ce qu'on fait après ? Donc globalement, les grands éléments sur lesquels vous pouvez bosser pour après, c'est un, le leadership. Donc en fait, ça rejoint un petit peu le délire de RH, de se dire, OK, comment je fais pour qu'il y ait un maximum de talents qui viennent voir mon agence et que je recrute les meilleurs ? Ensuite, il y a la partie partenariat, qui est une énorme partie. Tu vois, notamment, nous, on a fait des partenariats avec Scalesia qui nous permettent... en fait, au lieu d'aller chercher les clients un par un, tu vas chercher une institution au-dessus qui va ensuite diffuser ton message à plusieurs personnes. Donc, c'est des partenariats souvent payants, mais ça peut être aussi des échanges de bons procédés. Et ensuite, il y a deux grandes parties. Il y a la partie passer du service au produit. Si jamais on a identifié beaucoup de besoins et qu'on se dit, je peux peut-être créer un produit qui va permettre aux personnes de l'utiliser et donc du coup tu te transformes en startup. C'est quand même l'un des meilleurs moyens de lancer une startup, c'est aussi de passer par le produit et de se casser un peu les dents sur le business. Et après, il y a la vente de l'agence, la croissance externe, donc le rachat d'autres agences pour ensuite faire de la croissance et l'ouverture d'un nouveau pays, que ce soit pays anglophone ou bien non anglophone. Si vous avez bien packagé le service que vous rendez à vos clients, vous êtes normalement capable de l'exporter. Attention, chaque pays a ses propres cultures et ce n'est pas juste un copier-coller d'un pays à un autre. Il y a une vraie adaptation à faire de son business pour réussir à l'ouvrir. Nous, on s'est cassé les dents sur quelques pays où du coup, après, on a rétro-pédalé parce qu'on a compris de nos erreurs.
Des exemples de ce qui s'est passé et de pourquoi ça a capoté ?
Globalement, nous, tu vois, on a essayé de se lancer en Allemagne avec My Name is Bond sur l'une de nos agences. Et en fait, en Allemagne, ils lisent et ils sont très, très, très pointilleux sur les conditions générales de vente et les RGPD. Et donc, s'ils voient que dans ton agence, il y a des trucs qui ne sont pas 100% RGPD, ce qui est du coup le cas de 90% des agences en France, on ne va pas se mytho, ils n'y vont pas.
Okay.
Tu vois. Okay. Et je me souviens d'une discussion, t'imagines. Je suis allé faire le digital nomade en Thaïlande. J'ai eu une semaine d'une discussion avec un gars qui est formateur sur Excel. Son business, c'est de vendre des formations pour aider les gens à utiliser Excel. Je lui ai dit, tu connais Airtable ? Et il m'a dit, Airtable ? Non, mais ça, c'est des serveurs américains, c'est pas RGPD. Tu vois, genre, on est à ce niveau-là de méfiance. Okay. Donc, il faut faire attention à la culture du pays.
Ok, d'accord. La croissance externe, c'est un sujet vraiment à creuser et à maîtriser en France, parce que là où, dans un contexte anglo-saxon, tu vas avoir une profondeur de marché absolument titanesque, qui fait qu'à peu près n'importe quelle boîte peut atteindre sans trop de problèmes avec une seule offre, une seule entité, peut très bien atteindre les 8 chiffres sans trop de problèmes, voire même les 9 chiffres si fait les choses pas trop. En tout cas, le potentiel de marché en termes de profondeur est là. En France, la profondeur est infiniment moindre. Donc, tu vas très, très vite stagner sur un marché donné. Et donc, c'est pour ça que tu vas avoir énormément de boîtes qui vont très, très tôt, en fait, se constituer en groupe et qui vont, dès leur premier million de CA annuels, vont commencer à faire de la croissance externe. Pourquoi ? Parce que tu t'atteins très vite un plafond, quoi. Très, très vite. Et donc, on parlait tout à l'heure de la décorrélation entre le marché US anglo-saxon et le marché français. Ça, c'est une de ces déclinaisons, quoi. C'est-à-dire que, les dynamiques de marché sont pas du tout les mêmes.
Ouais.
Et donc, tu dois plus rapidement faire de l'acquisition. Tu dois donc racheter d'autres boîtes, faire trouver des relais de croissance.
Et en vrai, c'est une vraie question aussi à se dire quand tu démarres ton agence, parce que démarrer une agence en français en France, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à effort égal que tu vas mettre en place pour créer ton agence, bah, tu vas avoir un marché qui va être beaucoup, beaucoup plus petit. Alors que si tu commences day one en anglais, t'as quand même... T'as plus de concurrence, certes, mais t'as quand même aussi un marché bien plus grand à aller chercher. Et tu vois, aux États-Unis, ils font la distinction entre une agence locale et une agence nationale. Et ils ont vraiment, tu vois, c'est vraiment une catégorie. Et l'une des premières questions qu'on pose quand on va voir une agence, c'est « Ok, est-ce que t'es local ou est-ce que t'es international ?» Okay. Les agences, tu vois, de Facebook Ads pour des restaurants de petites villes aux États-Unis, il y en a, mais des milliers. Alors qu'une agence Facebook Ads nationale, à partir du moment où tu dis que t'es national, c'est genre t'es quelqu'un, tu vois, tu commences à faire entre 10 et 100 millions de CA par an.
Ok. Ok. Mais très certainement que cette boîte-là rachète beaucoup d'agences, petites agences locales, quoi.
Évidemment. C'est comme ça que Publicis s'est construit.
Ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter ?
Je crois qu'on a bien fait le tour, hein, globalement, vraiment se focaliser sur. On a dit quoi ? On a dit tout ce qui est fondation, comprendre le business model, tout ce qui est offre, bien définir son offre, choisir son marché, etc. Sales, les canaux d'acquisition, les lead magnets. Production, comment satisfaire son client, faire en sorte que son client devienne en fait un ambassadeur. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais même si vous entendez mal avec un client et qu'il part de votre agence, partez en bon terme. Parce qu'un client mécontent, il en prévient 8. Un client content, il en prévient 3. Et tout ce qui est développement, comment faire de la croissance. Donc ouais, on a vu les 5 grands pans de comment créer une agence.
Mec, merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'était trop cool. On te fait signe ou si on a des questions en dehors des commentaires.
Ouais, je suis très actif sur LinkedIn, Pierre Paris, comme la capitale, ou Paname Automatise, je crois que j'ai les deux. Et après, sinon, pour ceux qui veulent nous rejoindre et lancer une agence, ils peuvent directement postuler sur le site de The Quest, ou bien on a lancé un concours dernièrement sur 3 mois qui s'appelle Gâteau Choco. Donc, on est en ce moment même en train de faire des recrutements là-dessus, donc envoyez-moi un message sur LinkedIn avec plaisir pour en discuter.
Écoute, ça part.
Ça part.
J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé. Donc, SVP, kiffé. On se dit likez, commentez, abonnez-vous et puis à très vite pour une prochaine vidéo qui se lance dès maintenant. Et on a plein de choses à vous dire encore. Ciao.